Poussez, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Kolz, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez votre émission sur la chaîne YouTube Chroniques Terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. Au sommaire de nos Chroniques Terriennes, arrivée en 2020 à Mauriac, Anna Praderol propose un ensemble de services aux entreprises. À Aurillac, l'école de la deuxième chance accueille tous les jeunes qui en ont besoin. J'ai interviewé Pascal Monres, qui en est la directrice. Réélu en 2020, Pierre Matonnier, maire d'Aurillac, fait le bilan de son nouveau mi-mandat. Anna Praderol, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac et dans notre émission Chroniques Terriennes. Est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter ?
Oui, et ben merci Eric pour cette invitation. Alors moi c'est Anna Praderol, je suis cantalienne depuis 3 ans, mais cantalou depuis 5 générations. J'ai décidé de m'installer à Mauriac pour être au plus proche de ma famille tout simplement, et parce que j'adore le Cantal. Je suis actuellement directrice d'un cabinet de gestion que j'ai monté au mois de mars. L'objectif est de venir en aide aux entreprises pour externaliser les tâches administratives afin que les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises, les artisans, les professions libérales ou bien même les collectivités puissent se concentrer tout simplement sur leur cœur de métier et non sur les tâches complexes et chronophages.
Comment en êtes-vous arrivé jusque-là? Quel a été votre parcours?
Alors le parcours a été long. Je vais dire, j'ai tout d'abord fait mes études, donc une école de commerce à Paris et à l'étranger. J'ai voyagé notamment en Amérique latine, donc Colombie, Venezuela, au Moyen-Orient, en Israël, en Europe, donc en Espagne et en Angleterre. Et à la fin de mes études, je me suis lancée dans une première expérience d'entrepreneuriat qui était très riche en expérience, mais au bout de 2 ans, j'ai dû arrêter mon activité. J'avais un restaurant idéalement situé donc entre le Sénat, le Jardin du Luxembourg et Place de la Sorbonne. Mmh. Mais voilà, j'ai dû liquider ma société et là, je me suis dit plus jamais. Mais voilà, je décide de tourner la page de l'entrepreneuriat et je m'oriente plutôt vers la diplomatie et la politique. Donc, j'ai une belle opportunité parce que j'ai le privilège donc d'intégrer une ambassade en tant que chef de protocole. J'étais donc en charge des visites officielles, ministérielles et événements institutionnels. J'étais tout simplement le lien entre l'ambassade que je représentais et l'administration française. Mais au bout de quelques années, et lorsque j'ai eu mon premier enfant, et le Covid m'a un peu poussé aussi à partir, j'ai décidé voilà, de quitter Paris, tout simplement parce que je ne m'y retrouvais plus et je n'avais plus voilà, envie de vivre à Paris et que ce n'était vraiment pas mon objectif. Et j'ai décidé de revenir, ou de venir plutôt, dans le Cantal et de m'installer ici avec mes enfants et mon conjoint.
Voilà. Installé à Mauriac, ça doit quand même vous changer de Paris.
Alors, on va dire que c'est un très, très gros changement. Mais c'est une décision, voilà, c'est un choix qui est mûrement réfléchi parce que aujourd'hui, moi, je veux tout simplement être actrice du territoire et aussi participer à son développement. C'est la raison pour laquelle on a créé le cabinet Loan Associé. Mais je vais vous dire, Eric, quand je me réveille le matin et que je vois mes montagnes et que je vois mes enfants heureuses et que j'entends les vaches dans le pré d'à côté, ben ça me rend heureuse.
Parlons un peu de votre activité professionnelle. Donc, vous vous adressez aux chefs d'entreprise, vous réalisez pour eux des tâches administratives, lesquelles ?
Oui, alors pas que. On offre une gamme de services administratifs dans un premier temps. Donc, si vous voulez, je détaillerai dans un deuxième temps. On est aussi sur un domaine de gestion des ressources humaines, parce que c'est un élément qui est assez récurrent et qui aussi fait partie des tâches administratives très chronophages, très complexes. C'est vrai que voilà, gérer l'humain, ce n'est pas facile. Et on travaille aussi sur la stratégie de communication digitale, c'est-à-dire la gestion des réseaux. Alors, pour que ça soit un peu plus clair, dans la gestion administrative, on gère tout ce qui est gestion des démarches administratives, bien entendu, le suivi des dossiers administratifs et des formalités, évidemment la coordination avec le cabinet comptable. Par contre, on ne fait aucune tâche que le cabinet comptable fait. Voilà. Toute la gestion courante, l'établissement des documents commerciaux avec le logiciel du client ou avec un autre logiciel, le suivi de trésorerie, le secrétariat classique. Étant donné que je suis bilingue anglais, je propose ensuite des traductions de documents anglais-français. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, donc là, c'est vraiment la gestion du personnel, donc tout ce qui est lié au personnel, donc la gestion des plannings, des congés, des arrêts maladie, les relations avec les organismes extérieurs, ou alors voilà, la prise en charge onboarding, offboarding des salariés, ça veut dire le recrutement des salariés et leur départ, et également les entretiens professionnels. C'est des éléments qu'on nous demande régulièrement. On s'occupe aussi de toute la gestion du recrutement, c'est-à-dire la rédaction des publications d'offres, l'étude des candidatures et pour les alternants, voilà, les relations avec les écoles ou les universités.
En ce moment, avec la situation de l'emploi dans le Cantal, vous devez avoir pas mal de travail, étant donné que, comme le disait Laurent Ladoux, président de la CCI, il n'y a pas une entreprise du Cantal qui ne recrute.
C'est tout à fait vrai, oui, effectivement. Sauf que c'est très compliqué, voilà, de... On va parler d'attractivité. Je vais dire qu'on a épuisé toutes les ressources sur le Cantal. Il faut maintenant faire venir des gens. Ça, c'est important. Parce qu'effectivement, on a le taux de chômage le moins important en France. Et c'est vrai que trouver des profils qui soient adaptés à la demande, aux besoins des entreprises locales, c'est pas si simple.
C'est pas si simple. Il y a des problèmes de logement. Il y a des problèmes aussi liés au déplacement éventuel d'une famille.
Oui, tout à fait. Alors, je connais bien, étant donné que mon conjoint, lui, continue ses allers-retours avec Paris, étant donné qu'il est chef d'entreprise sur Paris et qu'il n'a pas pu, bien entendu, délocaliser son entreprise pour le moment. Et effectivement, on est vraiment confronté à ce problème de transport parce que voilà, on est enclavé et malheureusement, il n'y a pas de train. La seule possibilité, c'est l'avion qui ne fonctionne pas tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense qu'il y a un fort potentiel pour cette région et j'en suis persuadée et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de m'installer ici. Donc voilà, notre rôle c'est vraiment d'aider les entreprises. Si on peut les aider à faire venir des gens, bon là c'est un autre sujet, eh ben avec plaisir on le fera aussi parce que voilà, moi je me considère comme ambassadrice en quelque sorte du Cantal, même si ça n'a pas été facile, même si ce n'est pas facile. Aujourd'hui on est là, on est installé, on va continuer de se battre et le jeu en vaut la chandelle.
Avec quel type d'entreprise travaillez-vous le plus en ce moment?
Alors, c'est très aléatoire. J'ai, par exemple, une collectivité avec laquelle je travaille, ou alors un gros groupe, de manufacture. Voilà, c'est en fait, l'échelle est très, très large. Je peux travailler avec un maçon, je peux travailler avec des gros groupes, je peux travailler, bien entendu, voilà, avec des collectivités. C'est vrai que lorsqu'on a créé le cabinet, on s'est concentré sur une cible simple, c'était les artisans. Parce que moi, je voulais vraiment venir en aide aux artisans, venir en aide, soulager, accompagner. Mais on s'est rendu vite compte que c'était voilà, une cible qui a peu de temps à nous accorder, bien entendu, parce qu'ils ont énormément de travail. Donc, on a décidé voilà, de développer notre offre, tout simplement, pour répondre à une réelle demande, que ça soit de la part des collectivités, que ça soit de la part des entrepreneurs locaux, que ça soit de la part des dirigeants, voilà, et des professions libérales. Voilà, on a vraiment diversifier notre offre avec des personnes compétentes pour répondre à une demande qui est bien présente et bien entendu accompagner au mieux les entreprises, les entrepreneurs locaux.
Vous continuez à démarcher de nouveaux clients ou alors, ça y est, vous avez tout ce qu'il vous faut en client?
Alors oui, je continue bien entendu à démarcher. On est dans une démarche évidemment non agressive, si je peux dire comme ça. C'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est assez nouveau, c'est très novateur pour le Cantal. Donc on y va petit à petit et effectivement, j'ai la chance de pouvoir déjà compter sur des clients qui sont assez fidèles. Mais bien entendu, on continue notre démarchage et c'est très important pour nous, voilà, d'être présents sur le territoire.
De combien d'entreprises ou d'artisans pensez-vous pouvoir vous occuper simultanément ?
Une dizaine.
C'est pas mal.
C'est déjà bien. Tout en sachant que j'ai aussi une équipe sur Paris, donc je ne suis pas seule à tout gérer. J'ai deux personnes qui m'accompagnent sur Paris. Je souhaite aussi développer mon activité sur le territoire, bien entendu. Donc, je recherche deux autres profils à partir de janvier. Des profils, bien entendu, administratifs ou la gestion des réseaux ou ressources humaines. Donc oui, voilà, on peut accompagner. À aujourd'hui, je peux accompagner une dizaine de clients seuls.
L'avantage de votre profession, c'est que beaucoup de choses peuvent se faire en télétravail.
Bien entendu, oui, c'est l'avantage. On a quand même décidé de prendre des bureaux, donc à Mauriac, mais effectivement, on peut faire tout à distance. Il y a certains clients qui sont assez réticents, donc je dois me déplacer, ce qui n'est pas très gênant. Mais effectivement, c'est une profession qui ne nécessite pas d'être sur place en permanence.
Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge. Vierge, il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu, et là enlacer l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel. Tel que tu quittes la terre vers un point solitaire constellé de pluriel. Il faut tourner la page, redevenir tout simple comme ces âmes saintes dans leurs yeux, mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des chars. Oh yeah, il faut faire silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang blanc. Il faut tourner la page, aborder le rivage où rien ne fait semblant. Saluer le mystère, sourire, et puis se taire. Thank you.
Radio Pays d'Aurillac.
Dans la gamme de services que vous proposez, on a parlé du recrutement, mais quelles sont les autres tâches administratives pour lesquelles vous pouvez intervenir ? Pour le commun des mortels, c'est pas si évident que ça. Tout le monde ne sait pas comment fonctionne une entreprise. Il y a la partie recrutement, mais il y a aussi la partie, on va dire, purement
administrative.
Administrative, voilà, oui.
Alors, la gestion des ressources humaines, c'est une chose. La gestion du recrutement, ça fait partie de la gestion des ressources humaines. C'est une toute petite partie de ce qu'on propose. Dans la gestion administrative, par exemple, on fait le suivi des dossiers. L'URSSAF, vous avez oublié de déclarer tout simplement vos revenus à l'URSSAF. Mais ça, c'est quelque chose de très grave parce que vous avez un règlement d'office. C'est-à-dire que l'URSSAF vient prélever de l'argent sur votre compte.
Et ça entraîne des sanctions.
Et ça entraîne des sanctions sans tenir compte de vos revenus. Là, voilà, j'ai une entreprise qui a été prélevée à peu près 12 000 euros. Alors, je peux vous dire que quand on a une petite trésorerie, c'est une somme qui est très importante. Parce que, tout simplement, l'entrepreneur avait oublié de faire le nécessaire. Ce n'est pas, voilà, il n'a pas essayé de le cacher, il a simplement oublié. Donc, on est là, voilà, pour intervenir et la personne en question a récupéré l'intégralité de la somme qui avait été prélevée. Donc, voilà, c'est dans ce moment-là qu'on intervient, quand il y a, pour éviter les oublis, pour éviter les erreurs, pour ce genre de choses. Alors, toutes les formalités administratives qui pèsent tout simplement l'entrepreneur, le règlement des factures, le recouvrement, ce genre de choses, voilà.
Oui, vous faites donc aussi de la facturation, c'est quelque chose qui est très chronophage, ça aussi, pour les entrepreneurs.
Bien entendu. Et selon une étude, les entrepreneurs passent 54% de leur temps à faire des tâches administratives, alors qu'ils ont quand même créé une société pour développer leur activité. Donc, le but, notre objectif ici, c'est d'intervenir pour que eux puissent vraiment développer leur activité, gagner de nouveaux marchés, s'ouvrir sur de nouveaux marchés, bien entendu, mais vraiment se concentrer sur leur activité et développer leur activité, non s'occuper des tâches chronophages et complexes qui les incombent sans être formés, parce qu'un maçon, il est maçon, mais il n'est pas agent administratif, il n'est pas chargé des ressources humaines et il n'est pas chargé de stratégie digitale. Donc, à aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont importantes et qui incombent le dirigeant ou l'entrepreneur, même sans formation.
D'autant que certaines de ces tâches sont répétitives.
Répétitives, bien entendu, chronophages, complexes et malheureusement indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Parlons du digital. Quelle est votre offre dans ce domaine ?
Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une stratégie de communication globale quand on intervient. Donc, on fait un diagnostic de l'environnement existant, c'est-à-dire qu'on fait un tour un peu de ce qui est fait par le client. On établit une stratégie qui est adaptée. Ensuite, on définit un planning éditorial, bien entendu, et on choisit un réseau qui est adapté à la cible ou les cibles de notre client. On peut aussi organiser des événements physiques. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on s'occupe de la gestion des réseaux sociaux. Donc sur le calendrier qu'on aura défini en amont, on va publier sur les éléments qui auront été définis, sur les événements qui auront été définis. On va respecter la ligne éditoriale de l'entreprise.
Un maçon n'a pas nécessairement besoin d'être présent sur Snapchat, par exemple.
Exactement, ou même sur TikTok. Après, ça dépend. Mais normalement, non.
Voilà.
Ça dépend de la cible, voilà.
Ça dépend de la cible, essentiellement. Vous faites de la création de sites internet tels qu'on les connaît ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait plus ?
Alors, nous, on fait appel, on a un partenaire. On a CW avec qui on travaille et on utilise les templates de CW et on fait les sites internet c'est très facile à faire, c'est ludique, c'est intuitif, c'est déjà très bien fait, donc il n'y a pas énormément de travail dessus. Mais voilà ce qu'on propose en termes de sites internet.
Oui, c'est ce qu'on appelle des CMS en fait.
Exactement.
Cette offre numérique, elle peut s'adresser à tout le monde, même à un agriculteur, s'il veut vendre ses fromages à la ferme ou ses produits à la ferme, hein, pas forcément des fromages, ça peut être autre chose.
Bien sûr. Alors, l'offre de stratégie digitale est illimitée. Voilà. Elle s'adresse à tout type d'activité. Bien entendu, aujourd'hui, si on veut avoir une politique, si on veut développer son entreprise, il faut bien entendu être présent sur les réseaux. Alors, ça aussi, c'est une tâche qui est très chronophage, pas forcément très complexe avec toute l'intelligence artificielle qui existe aujourd'hui. Mais malheureusement, il faut avoir quelques bases et il faut consacrer au moins 1 à 2 journées par mois, parce que être présent sur les réseaux, ça demande vraiment de poster de manière régulière.
De mettre à jour ces informations.
Oui, alors ça, c'est indispensable, mais poster de manière régulière, être présent, être connecté, répondre aux messages. Voilà, c'est indispensable si toutefois on veut développer son entreprise. C'est la première chose à faire. Et d'autant plus que c'est quand même gratuit pour l'entrepreneur. Pas ma prestation, bien entendu, mais en termes de publicité. Pour lui-même, Facebook ou Instagram propose des publications payantes, mais la plupart du temps, ce n'est pas payant. On peut jouir de Facebook ou Instagram de manière gratuite.
Oui, les comptes payants ne sont pas nécessairement utiles pour des petits artisans ou autres petites entreprises.
Pas du tout. Pas du tout.
Pour quelles raisons faire appel à vos services ?
Dans un premier temps, comme je le disais, se concentrer sur votre activité. Dans un deuxième temps, réduire vos coûts. Bien entendu, moi, je ne suis pas une salariée, je suis un prestataire externe. Vous faire gagner du temps, ça c'est indispensable. Ensuite, vous pourrez disposer d'un personnel 100% disponible. Je ne me mettrai pas en arrêt maladie, je ne me mettrai pas en congé. Il y a toujours une équipe qui est là pour me relayer. Vous pourrez aussi bénéficier d'un service flexible et évolutif, c'est-à-dire qu'on s'adapte bien entendu en fonction du besoin du client, en fonction de sa demande, en fonction de son objectif. Voilà, l'offre est très variée et elle peut bien entendu augmenter comme diminuer en fonction du besoin, en fonction de la trésorerie de l'entrepreneur. Ouvrir de nouveaux marchés, étant donné que vous pourrez enfin vous concentrer sur votre activité et bien sûr travailler avec un partenaire de confiance. Ce qu'on propose aussi, Eric, c'est qu'on a défini des packs pour que ça soit un peu plus parlant tout simplement au commun des mortels, comme vous le disiez. Je vous invite tout simplement à aller voir notre site pour les découvrir.
Oui, votre site, c'est ?
Donc, c'est www.loan, donc lo pour Laurent, Anne pour Anna, -6, associé au pluriel.fr.
Assez facile à retenir.
Très facile.
Pour les plus chevronnés d'entre eux, un compte Instagram peut-être ?
Alors non, moi je n'ai pas Instagram parce que j'en ai pas l'utilité, voyez-vous. Par contre, j'ai Facebook, bien entendu.
Eh bien voilà, on va le donner aussi alors.
Alors c'est Anna Praderol, Loan associé.
Voilà, aussi très facile à retenir.
Non mais vous me trouverez avec Anna Praderol tout simplement, avec un EY. Pas un AY pour le coup.
Est-ce que vous n'avez pas eu peur, quand vous êtes installé dans la région, de manquer de clientèle ?
Alors, pas du tout. C'est la raison pour laquelle on s'est aussi installé ici. On avait plusieurs choix qui s'offraient à nous, mais on a décidé de s'installer à Mauriac dans un premier temps parce que j'étais proche de ma famille. Mais c'est vrai que professionnellement, moi, je sais qu'on a fait le bon choix.
Et la vie de famille, alors, ça évolue comment ?
Alors, la vie de famille, voilà, comme je vous le disais, mon conjoint n'est pas là 5 jours par semaine. On va dire que ça complique un peu les choses. Quand on est chef d'entreprise et qu'on doit être chef de la maison aussi, c'est assez compliqué de tout gérer en même temps. Mais je suis beaucoup aidée par ma mère notamment, donc j'ai beaucoup de chance. Et je sais que j'ai fait le bon choix et je sais que c'est ma place et mes filles sont très contentes de vivre ici. Pour rien au monde, je quitte Mauriac. Voilà.
En tout cas, on vous sent heureuse d'y être.
Oui, parce que j'ai énormément voyagé, j'ai vécu un peu partout, sur tous les continents pratiquement, mais je me sens bien ici, je me sens chez moi ici.
Est-ce que c'est pas justement parce que vous avez eu l'occasion de voyager que maintenant vous êtes en mesure de vous dire, ben voilà, j'ai envie de me poser là ?
Certainement, mais j'aurais pu me poser n'importe où, mais j'ai choisi le Cantal pour toutes les raisons que vous connaissez, voilà, ces montagnes, ces paysages, son fromage, évidemment.
Incontournable.
Oui, je sais qu'on a fait le bon choix. On a eu 3 années un peu difficiles parce que forcément, il faut s'intégrer, il faut tout recommencer à zéro. Mes enfants étaient petits, en bas âge. Donc, ça n'a pas été facile. On sait que c'est le bon moment et on sait que c'est le bon endroit.
Et puis, vous êtes arrivé en pleine crise du Covid.
Oui.
Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, que ce soit au niveau des individus, des entreprises, aussi bien que des institutions d'ailleurs.
Bien sûr, oui. Ça a été une période très compliquée à tout point. Donc, je suis contente que ça soit derrière nous.
Anna, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
J'espère qu'on aura de vos nouvelles sur l'évolution de votre entreprise.
Bien sûr, j'y compte bien.
Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac.
Merci beaucoup Eric, à très bientôt. Au revoir.
Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page.
On n'a pas trop de temps à refaire. On n'a pas trop de ciel pour s'étendre sur le sujet, à rêver l'essentiel enlacé. Mais quand l'amour est là, il n'est jamais acquis. Et quand il est parti, il nous laisse des pourquoi, 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 pourquoi.
Je n'emporte rien, vraiment,
vraiment.
Je veux vivre dans notre vie. Je suis riche du temps,
du temps.
De tout ce que j'ai perdu, je suis légère au vent.
Même l'hiver. Mais quand l'amour est là, il n'est jamais acquis. Et quand il est parti, il nous laisse des pourquoi, 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 pourquoi.
Je n'emporte rien,
vraiment, vraiment.
Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page.
Je n'emporte rien.
Pascal Monreys, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directrice de l'école de la seconde chance. Seconde chance, on dit ?
Deuxième chance, parce que c'est un label, donc c'est école de la deuxième chance.
École de la deuxième chance à Aurillac. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Alors, je travaille à l'école de la deuxième chance depuis son ouverture en 2006. Du coup, j'ai participé au montage du projet. De formation, je suis psychologue du travail et j'ai toujours travaillé dans les Greta, quasiment, et le dispositif école de la deuxième chance dans le Cantal, et un dispositif de formation qui dépend du Greta des Monts du Cantal.
Qu'est-ce que l'école de la deuxième chance ?
Alors c'est un dispositif d'insertion pour jeunes adultes. C'est pour les jeunes de 16 à 25 ans, éloignés de l'emploi et peu qualifiés, sortis du système scolaire souvent en difficulté. Ça porte le nom d'école, mais école de la deuxième chance c'est un label, mais c'est pas une école, c'est vraiment un dispositif de formation pour jeunes adultes. Les stagiaires qui rentrent à l'école sont volontaires pour rentrer à l'école. Donc l'objectif de la formation c'est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Oui.
Donc nous, ce qu'on vise, c'est une sortie en emploi ou en formation qualifiante. C'est un parcours en alternance. Donc les jeunes sont 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise. L'objectif des stages en entreprise pour eux, c'est de découvrir des métiers, de valider leurs projets professionnels et ensuite de se faire connaître dans les entreprises pour décrocher un contrat ou une formation en alternance, par exemple. L'objectif de la formation en centre, c'est de les aider à construire leurs projets professionnels, de les aider à résoudre leurs problématiques sociales, quelles qu'elles soient. Ça peut être des problèmes de logement, ça peut être des problèmes de famille, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de... Voilà. On est là pour les aider à résoudre tout ce qui peut être un frein à l'emploi, en fait, à faire en sorte qu'ils soient disponibles pour l'emploi. Et puis, on travaille après sur plein de choses. Quand on est en formation, on travaille sur la communication, on travaille sur la mobilité, on travaille sur se prendre en charge dans sa vie personnelle et sociale, on travaille sur la citoyenneté. On est un dispositif où on peut se permettre de faire toutes les choses qui nous paraissent intéressantes pour les jeunes qu'on a au moment où on les a. Donc, en fait, un parcours d'un jeune qui rentre en début d'année, un parcours d'un jeune qui rentre en fin d'année, ça ne sera jamais exactement le même, parce que les interventions qu'on va faire, elles sont adaptées au groupe qu'on a, aux opportunités qu'on a, aux partenaires qu'on a au moment où on les a.
Les formations que vous dispensez, ça concerne quel type de métier? Et est-ce que vous appuyez sur les formations du GRETA?
On peut s'appuyer sur les formations du GRETA si le GRETA propose les formations qui intéressent nos stagiaires pour leur projet professionnel. Sinon, à côté de ça, on fonctionne vraiment indépendamment du GRETA. Et en fait, on est là pour accompagner les stagiaires à construire leur projet et à le réaliser, quel que soit le projet. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne fait pas de la formation adaptée à un métier. On aide le jeune à construire son parcours de formation. Donc du coup, les jeunes chez nous, ils peuvent avoir le projet qu'ils veulent. On a une personne qui est chargée de relations entreprises. Et si un jeune a envie d'essayer souffleur de verre ou tailleur de pierre, eh bien Valérie, qui est chargée de relations entreprises, va chercher des contacts dans les entreprises pour que le jeune puisse essayer souffleur de verre ou tailleur de pierre. Donc on s'adapte vraiment au projet du jeune et on peut accompagner sur tous les projets.
Oui, le principe, c'est qu'ils trouvent le métier qui leur correspond et qui leur donne envie de travailler.
Oui, voilà. Et là, l'intérêt, c'est de les aider à réaliser vraiment... Des fois, les jeunes, il peut arriver que des jeunes aient envie de faire quelque chose qui n'est pas accessible pour eux ou qui n'est pas accessible sur le marché du travail dans l'endroit où ils sont. Par exemple, un jeune qui veut faire, des métiers du spectacle à Aurillac, il n'y aura pas tellement de débouchés. Par contre, s'il est prêt à partir à Paris, il y aura peut-être plus de débouchés. Donc l'objectif, c'est tenir compte de ses contraintes, de ses priorités pour construire un projet qui soit réalisable, mais aussi quelque chose qui lui plaît. C'est pas à nous de l'amener à un truc qu'il n'a pas voulu, parce que ça ne va pas durer. Ça sera un projet qui ne tiendra pas.
Et donc, tenir compte de la réalité du marché de l'emploi local et de l'offre qui est disponible dans le Cantal. Alors, dans le Cantal, on a quand même la chance d'avoir une offre assez pléthore, finalement.
Oui, rester dans le Cantal, c'est fonction aussi des projets du jeune. Hein. Si le jeune, il veut partir, on peut construire un projet différent avec ses projets de départ. Mm-hmm. Mais oui, dans le Cantal, alors nous, on est beaucoup sur des métiers peu qualifiés. Donc on est beaucoup sur du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, du commerce, parce que...
De l'industrie aussi ?
L'industrie un petit peu, mais moins, parce qu'il y a moins d'offres. Mmh. On travaille pas mal avec l'entreprise La Femme, et on travaille un petit peu avec Abeille, mais il n'y a pas non plus une offre, il n'y a pas de plasturgie, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un gros secteur de débouché pour nous.
Ces jeunes qui rentrent à l'école de la deuxième chance, que peuvent-ils espérer? Est-ce qu'ils peuvent espérer un diplôme? Est-ce qu'ils peuvent espérer une formation qualifiante? Et est-ce qu'ils peuvent aussi espérer sortir avec un métier?
Alors, sortir de l'école avec un métier, non, parce que nous, on ne forme pas un métier. On accompagne à construire et réaliser un projet professionnel. Donc, si le métier nécessite une formation, la formation au métier, elle se fera en dehors de chez nous. Elle se fera après, en poursuite de formation. Par contre, si le métier il est accessible sans formation, le jeune, à travers ses stages, peut acquérir les compétences suffisantes pour travailler directement dans ce métier-là. Donc, ce qu'il peut espérer, c'est oui, une formation, une entrée en formation qualifiante, si c'est ce qu'il veut. Mmh. Parce qu'on va aussi l'aider à se remettre à niveau et à travailler les compétences de base pour pouvoir suivre la formation qualifiante. Mmh. Et il peut espérer, sinon, accéder à un emploi directement s'il a un projet qui est réalisable sans formation qualifiante. Nous, on va l'aider à trouver un travail à ce moment-là.
Alors, je suppose que vous dispensez des formations quant à la réalisation d'un CV, quant à savoir se présenter à un employeur.
Oui, en centre de formation, on travaille sur toutes les techniques de recherche d'emploi. On a des partenaires aussi issus du monde de l'entreprise qui viennent chez nous faire des simulations d'entretien de recrutement pour entraîner les jeunes et qu'ils soient dans des conditions réelles face à des vrais recruteurs. Et on travaille sur la présentation, sur la communication. Et la présentation, c'est et la manière d'expliquer son parcours et de se vendre dans une entreprise, et la manière de se tenir physiquement, et la manière de s'habiller. Enfin, c'est tout. Ça va de l'hygiène à la tenue, à la coiffure.
C'est très, très vaste, finalement.
Oui, oui, oui. Et vraiment, quand on repère un besoin chez les jeunes qu'on a, on essaye de trouver une réponse en formation adaptée ou une réponse avec des partenaires extérieurs adaptés pour que la personne puisse travailler ce qu'elle a à travailler.
Un jeune qui intègre l'école de la deuxième chance, pour combien de temps y reste-t-il ?
On part sur un parcours de 6 mois au départ. À la fin des 6 mois, si le jeune n'a pas trouvé de solution, on peut lui proposer de prolonger son parcours. Donc si lui le souhaite, si nous on estime qu'il s'investit suffisamment dans son parcours pour que ça vaille le coup de le prolonger. Et en général, on peut prolonger jusqu'à 1 an, puis on se rend compte qu'au bout d'un an, les jeunes commencent à se démotiver et ils sont moins investis dans le parcours. Et c'est mieux si 1 an après, ils n'ont pas trouvé de solution, c'est mieux qu'ils aillent continuer leur parcours dans une autre structure avec un autre accompagnement et d'autres personnes pour se redynamiser. Donc en général, on ne dépasse pas 1 an.
Oui, ce qui est quand même pas mal.
Oui, oui. Après, c'est rare quand même que les jeunes fassent des parcours d'un an. Chez nous en formation. Le parcours moyen, c'est 7 mois.
7 mois.
Ouais.
Combien de jeunes accueillez-vous à l'heure actuelle ?
Alors, l'année dernière, on a accueilli 60 jeunes. On a une cible de 50 entrants par an.
Ah, c'est bien.
C'est bien, on a un petit peu du mal à l'atteindre parce qu'il y a beaucoup de dispositifs pour les jeunes et pas beaucoup de jeunes dans le Cantal. Mais voilà, notre cible, c'est 50 jeunes entrants par an.
La vie, comment on la savoure ? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait « Sois érudit », l'autre chuchotait « Rempli ton caddie ».
Comment choisir entre les deux approches ? L'une disait « Remplis ta tête », l'autre « Tes poches ». Entre les deux difficultés, aucune chez moi n'a fait l'unanimité.
À n'appartenir à personne, tu meurs. À trop entendre, sors de ma demeure. À pas répondre ni merde, ni s'il te plaît. T'as manqué, tout s'est dépeuplé.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
La vie, comment on la savoure? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. Sans jamais s'octroyer demi-temps, elle se tirait dessus à bout portant.
Comment faire le compromis? Dire à l'une et à l'autre c'est promis. Avancer sans qu'elle se fâche, à l'oreille une fleur, à la taille une hache.
Oui, fallait être malin pour apporter de l'eau de moulin. Avec leurs ailes qui avaient tout démoli, en voyant la rivière changer de lit.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Comment échapper aux deux maîtres? L'un disait du chiffre et l'autre des lettres. Comment déchiffrer le hiéroglyphe quand on n'est ni Champollion ni le calife?
Quand l'un dit pardonne et l'autre venge-toi, et tout ça sous le même toit. À pas vouloir choisir entre les deux édifices, t'es pour l'un et pour l'autre commis d'office.
À vouloir être pote avec les deux, l'un et l'autre te traitent de merdeux. Et tu meurs bouche ouverte dans les flaques, avec un requiem, dormez-vous frère Jacques.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Ballotté, tu finis comme un de ces spécimens qui dit non merci à la race humaine.
Et pour pas être victime d'une horte-feu,
un beau jour c'est toi le premier qui fait feu. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. 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 À la vie, à la mort.
Radio Pays d'Aurillac.
Avec la nouvelle réforme de Pôle emploi, est-ce que vous allez être intégré dans ce nouveau dispositif?
Alors, on devrait, puisque l'école de la deuxième chance est ce qu'on appelle une solution structurante pour les jeunes en contrat emploi jeune. Normalement, en fait, un jeune qui rentre en accompagnement à la mission locale ou à Pôle emploi dans le cadre du COJ peut en même temps intégrer l'école de la deuxième chance. Ce qui, normalement, doit permettre que plus de jeunes puissent entrer à l'école de la deuxième chance, même s'ils sont par ailleurs suivis par la mission locale et Pôle emploi. Voilà, c'est un partenariat qu'on doit encore développer parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de jeunes qui sont en COJ et qui rentrent à l'école de la deuxième chance.
Alors, ça allait être ma question, c'est qui vous envoie les jeunes à l'école de la deuxième chance?
Alors, ça peut être la mission locale, ça peut être Pôle emploi. Il y a ce qu'on appelle des prescripteurs officiels du conseil régional, puisqu'on a une formation financée majoritairement par le conseil régional. Donc là, c'est des gens qui accompagnent les demandeurs d'emploi, donc Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi et le CIDF. Après, les jeunes, ils peuvent venir tout seuls, ils peuvent venir avec leurs parents, ils peuvent être envoyés par des partenaires sociaux, par le CPH, par le CADA, par le CIO, par n'importe qui en fait.
Et est-ce qu'un jeune peut spontanément vous contacter?
Bien sûr, il peut postuler via le site de l'école de la deuxième chance, de C15.fr. Il peut venir se présenter, il peut nous appeler pour qu'on lui explique ce que c'est que l'école de la deuxième chance, qu'on lui fasse visiter, pour qu'il décide après si ça peut l'intéresser ou non.
Ce sont des sessions de 6 mois qui débutent à une date précise.
On fonctionne à entrée et sortie permanente toute l'année, donc tous les jeudis on peut faire rentrer un nouveau candidat. C'est-à-dire que du coup on peut, quand le jeune est motivé et décide à faire quelque chose, on peut l'intégrer tout de suite à l'école de la deuxième chance.
Donc si cette semaine un jeune veut intégrer l'école, c'est possible?
Ouais, s'il se présente, qu'il est intéressé, alors il faut quand même avoir des papiers pour qu'on fasse, en fait l'inscription à l'école de la deuxième chance, elle passe par une inscription en tant que stagiaire de la formation professionnelle auprès de la région, puisque le jeune va bénéficier d'une indemnité le temps de sa formation, une indemnité financière. Donc pour ça, il faut qu'il ait un RIB à son nom, il faut qu'il ait une pièce d'identité valide ou un récépissé l'autorisant à travailler, et il faut qu'il ait une attestation de sécurité sociale valide. S'il n'a pas ces documents-là, on ne va pas pouvoir l'intégrer immédiatement, mais on va l'accompagner pour récupérer ses documents, pour faire les dossiers qui lui permettent d'obtenir ses documents. Mais tant qu'il n'a pas ces documents, par contre, on ne pourra pas l'intégrer.
Alors quel est le montant de cette indemnité?
Alors l'indemnité, elle se situe aux alentours de 200 euros pour un mineur, aux alentours de 500 euros pour un majeur et aux alentours de 700 euros pour quelques personnes dans des situations particulières comme les bénéficiaires de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Est-ce que ils peuvent avoir accès éventuellement aussi à l'allocation logement en percevant cette aide?
Oui, après l'allocation logement, elle est fonction de ce qu'ils vont déclarer comme revenu. Donc oui, bien sûr, ils peuvent, parce que sinon c'est compliqué de vivre avec 500 euros s'il faut payer un loyer sans aide. Ouais. Par contre, l'allocation, elle est soumise à leur présence en formation. C'est-à-dire que s'ils sont absents une semaine, il va y avoir un quart de l'allocation de l'indemnité qui va sauter.
Ce qui est tout à fait normal.
Ce qui est normal.
C'est aussi motivant quelque part.
Oui, c'est ce qui se passe dans la vie après. Si on ne va pas travailler, on n'a pas de salaire.
Si on ne va pas travailler, voilà. On n'a pas de salaire, effectivement. Oui. Quels sont les partenaires financiers de l'école de la deuxième chance? Par qui êtes-vous financé? Alors, on a parlé de la région, on a parlé peut-être du département aussi?
Non.
Non, pas du tout?
Alors, on est financé très majoritairement par la région. On a une partie de nos financements qui sont donnés par l'État. Et après, les financements, il y a un petit peu de taxes d'apprentissage. Mais comme on est dans le Cantal et que c'est beaucoup des petites entreprises, c'est rarement des gros montants, donc ça ne fait pas non plus des grosses sommes. On peut répondre à des appels à projets pour obtenir des fonds de fondation ou des fonds même qui proviennent de l'État, mais sur des projets spécifiques. Et la question du financement, c'est une de nos problématiques, parce qu'en fait, les écoles de la deuxième chance sont montées sur la volonté de financement d'un conseil régional partout en France, mais sont généralement soutenues par les collectivités locales. local. Et c'est ce qui nous manque, nous, dans le Cantal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de financement ni du département, ni de la ville, ni de la CABA. C'est problématique parce que la région nous finance beaucoup plus que ce qu'elle finance les autres écoles de la deuxième chance en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ben, pour l'instant, la région accepte de nous soutenir comme ça, mais à un moment donné, la région peut dire ben, on va vous soutenir à la même hauteur que ce qu'on donne aux autres écoles d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors, si Monsieur Faure et Monsieur Matonnier écoutent, ben, qu'ils fassent un petit geste.
Oui. En plus, on est la seule école d'Auvergne-Rhône-Alpes à avoir aucun financement de collectivité locale. Toutes les autres écoles sont soutenues par les collectivités locales.
Vous travaillez avec des jeunes qui sont donc en règle générale en difficulté. Je suppose que vous avez, bon, vous êtes de formation psychologue. Je suppose que vous avez une équipe pluridisciplinaire.
Alors, on est une petite équipe. On a deux formatrices, une chargée de relations entreprises, moi et une secrétaire. Voilà. Et après, la pluridisciplinarité qu'on n'a pas chez nous, eh ben, on la trouve ailleurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de partenaires sociaux et on fait appel aux partenaires pour résoudre les problématiques spécifiques des jeunes quand il y en a. Voilà. On a aussi une formatrice qui est vacataire qui intervient sur des projets. Les jeunes qu'on a, en général, ils sont suivis par des assistantes sociales. Ils sont souvent suivis par des accompagnateurs sociaux,
oui,
de structures différentes. On a plutôt comme partenaire l'AMPA, le foyer des jeunes travailleurs, le centre médico-psychologique, on a des partenaires de la banque alimentaire.
Oui, donc des partenaires qui sont directement en contact avec ces jeunes.
Oui, c'est-à-dire que nous, en fait, on n'est pas spécialiste de tout, on n'est pas assistante sociale. Et l'objectif, c'est aussi qu'on permette aux jeunes d'être autonomes une fois qu'ils sont sortis de chez nous. Donc, ce n'est pas qu'on leur amène toutes les réponses tout cuit sur place à l'école de deuxième chance. C'est plutôt qu'on les aide à repérer les structures, à repérer les gens qui vont pouvoir les aider, les accompagner. Ce qui fait que quand ils ne seront plus chez nous, ces jeunes-là, s'ils ont une difficulté, ils sauront à quelle porte aller taper et qui aller voir.
C'est de l'autonomisation.
Voilà, c'est de les accompagner vers l'autonomie sociale, les amener à être capables de se prendre en charge de manière autonome sur tous les pans de leur vie. Ce qui me paraît important sur l'école de la deuxième chance, c'est que l'individualisation, c'est le maître mot. C'est-à-dire qu'on a des jeunes d'âges différents, de profils différents, de niveaux scolaires différents, des jeunes qui n'ont pas été à l'école, des jeunes qui ont été à l'école, des jeunes qui n'ont jamais travaillé, des jeunes qui ont déjà travaillé, des jeunes qui ont des difficultés sociales importantes, d'autres moins. Et nous, on s'adapte à la demande de chacun et on essaye au maximum d'individualiser le parcours. Et chaque jeune est accompagné individuellement par un formateur référent. Voilà, donc le maître mot, c'est de s'adapter à la demande, à la situation et aux objectifs du jeune.
C'est finalement une prise en charge à la carte.
C'est ça. C'est une prise en charge vraiment très individualisée. C'est-à-dire qu'on individualise l'alternance, le rythme, la durée, les accompagnements, enfin tout, les contenus.
Est-ce que des chefs d'entreprise, et ça sera ma dernière question, peuvent aussi vous solliciter en disant bah, « nous, on a une offre à proposer ».
Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive quand on a une chargée de relations entreprises, on a un gros réseau de partenaires entreprises et ça arrive que des entreprises nous appellent en disant « voilà, on a besoin d'un employé libre-service, on a besoin de ça, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut correspondre ?»
Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission des Chroniques Terriennes sur Radio Pays d'Aurillac.
Merci à vous.
J'espère qu'on pourra se revoir peut-être avec quelques jeunes pour voir comment ça avance,
oui,
dans leur vie.
Avec grand plaisir, ouais, les jeunes pourront témoigner. Ouais.
Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Monsieur le maire, Aurillac se réveille. Cela résume-t-il ces trois premières années de mandat?
Oui, parce que c'était quand même un contexte très particulier, hein, puisqu'on sortait, enfin, on a eu une période de confinement dans le mandat. Et aujourd'hui, je vois à la fois l'augmentation du nombre de salariés sur l'agglo, là, parce que les statistiques sont à l'échelle de l'agglo, le dynamisme du marché immobilier, les statistiques aussi, hein, de la démographie locale, hein, puisque depuis 2 ans, nous avons gagné 200 habitants. Donc, il y a un mouvement de fond qui fait qu'aujourd'hui, les différents projets que nous avons portés se concrétisent et amènent un dynamisme. Je vais prendre l'exemple des quartiers qui ont été réhabilités, que ce soit le quartier de Marmier, avec à la fois les équipements publics, hein, le square Jarrat, le sismographe, le bâtiment de vivacité, les reconstructions, hein, démolition, reconstruction, donc l'offre d'habitat qui est créée sur ce quartier, le centre commercial de Marmier, les travaux qu'on va mener sur la voirie aujourd'hui sont typiques de la façon de ce qui se produit, du résultat des investissements publics. Le quartier de la gare, qui est complètement été bouleversé. À la base, c'était un pôle d'échange intermodal qui devait assurer l'interconnexion entre les cars, les bus et le train. Et puis c'est un quartier qui, par capillarité, a fait l'objet de rénovations, un effet d'entraînement sur les commerces, un effet d'entraînement sur l'habitat, que ce soit les bailleurs sociaux ou les bailleurs privés. Donc c'est un quartier qui s'est complètement régénéré. Le quartier Saint-Géraud, qui, on le voit, suite aux investissements menés par la collectivité sur à la fois l'abbatiale et sur la place Saint-Géraud, le square des Justes, etc., fait qu'aujourd'hui, ce quartier-là se réhabilite et que ça a des conséquences sur l'habitat privé, sur le commerce, bien sûr. L'îlot des Frères Charmes, avec les rues piétonnes. Aujourd'hui, cette locomotive commerciale qu'est la FNAC joue pleinement son rôle. Et le fait que nous ayons refait les rues piétonnes fait qu'aujourd'hui, le taux de vacance des commerces est passé d'un peu plus de 14% à 10%. Donc, il y a un dynamisme fort sur les indicateurs que j'ai. Donc aujourd'hui, je me dis, la ville d'Aurillac se réveille et va se réveiller encore plus parce que le pôle d'excellence microbiologie, qui aujourd'hui est accompagné par un mouvement de fond d'entreprises locales très performantes sur les ferments lactiques, sur les probiotiques, fait que par entraînement, ou en tout cas l'écosystème autour de formation qui a été créé, fait qu'aujourd'hui, la population d'Aurillac va être fortement impactée par ce pôle d'excellence. Parce que y a des employés qui vont venir dans les entreprises qui travaillent avec un plan de montée en charge qui fait du x2 tous les 3 ans. Hein, donc, et on l'a vécu déjà pendant les 3 premières années. Hein, je pense à Bioz, à Hôtel, à l'Allemand. Donc il y a un mouvement de fond, hein, le LIA, l'AgroLab, le LIP, tout ça. Mais il y a aussi l'université qui joue les organismes de formation, parce qu'il n'y a pas que l'université. Les organismes de formation qui accompagnent ce mouvement en offrant des formations qui permettront de capter les salariés pour les entreprises de demain. Donc il y a un écosystème favorable qui va avoir des conséquences sur la ville, notamment en termes d'offres d'habitat, de services publics et d'équipements sportifs, culturels. Voilà. Donc vous voyez, il y a une dynamique très forte sur ces éléments-là, sachant aussi qu'on poursuit la dynamique structurelle des équipements qu'on avait prévus dans le cadre du projet Europan. Pour autant, et c'est important, c'est qu'il ne faut pas négliger les habitats. Aujourd'hui, le quotidien, tous ces grands projets, on le voit quand on rénove un quartier, c'est d'abord et avant tout au service des habitants et des habitants actuels. Donc, ça me fait très plaisir que le square Jara, par exemple, soit occupé avec beaucoup d'enfants. C'est vrai que ça me fait... Moi, je me plais sur cet élément-là. En revanche, il faut qu'on puisse organiser cette cohabitation avec les riverains qui, aujourd'hui, peut-être qu'à partir après 22h30, il faut éteindre les lumières. Peut-être, oui, pourquoi pas. Tout ça, c'est un travail de vivre ensemble qui doit être accompagné parce que le développement de la ville ne peut pas se faire au détriment des habitants, sinon c'est pas durable. Pour que ce soit durable, il faut qu'il y ait convergence entre les équipements structurants, mais aussi la vie quotidienne.
Vous le dites vous-même, la ville manque de logements. Que peut-on faire pour y remédier ?
Sur la première partie du mandat, on a déjà fait beaucoup. Hein, sur le quartier de Marmier, on a reconstruit dans le cadre de la politique de la ville. Polygone sur Jean Jaurès a fait plusieurs opérations. Mais c'est vrai qu'il va falloir travailler à avoir une offre d'habitat en ville, parce qu'aujourd'hui, le sujet des nouveaux arrivants, c'est plutôt en ville qu'ils veulent être. Hein, ils ne viennent pas pour être à la campagne ou alors sur des maisons très, très typées. Hein, mais bon, voilà, l'offre est un peu courte, ou en tout cas, elle n'est pas extensive. Donc, il y a cette problématique du logement qui va devoir être étudiée au plus près et sur certains quartiers, puisque nous avons l'opportunité d'avoir des friches urbaines, eh bien, vont pouvoir faire l'objet de propositions réfléchies avec les entreprises, réfléchies avec les futurs utilisateurs, de façon à coller aux besoins de résidences étudiantes, de résidences de chercheurs, de résidences de familles.
Vous le dites, le développement du pôle microbio se fait très rapidement. Est-ce que la commune a les moyens de réagir et d'être présente pour justement justement accueillir cette nouvelle population?
C'est tout l'enjeu et toute la volonté que nous avons, c'est de répondre au plus près, mais en sollicitant les éventuels bailleurs, entre autres, pour que justement ces projets de construction puissent être portés par des professionnels qui vont profiter aujourd'hui d'un écosystème favorable par le biais du pôle d'excellence. Donc je ne m'interdis pas de solliciter des promoteurs extérieurs qui porteront les projets. Tout ça, c'est dans l'intérêt du pôle d'excellence d'avoir une offre d'habitat. Mais je pense que le sujet, ça c'est un sujet de stratégie politique et je pense que ça nous a, en tout cas c'est un vrai sujet et il nous appartient d'y répondre. C'est un des sujets. Mais sans négliger le quotidien, sans négliger aujourd'hui les problématiques de quartier. Parce que aujourd'hui, moi, je suis rarement interrogé sur les projets stratégiques. Ça, c'est l'histoire après qui juge. Par contre, sur le quotidien, eh bien, il nous appartient de traiter ces problématiques-là nous-mêmes. Ces problématiques-là du quotidien, il faut qu'on reste à l'écoute et sans perdre le contact avec la population, parce que ces sujets stratégiques pour l'avenir d'Aurillac, aujourd'hui, c'est peut-être pas le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est la propreté urbaine, c'est les espaces verts, c'est la lutte contre les îlots de chaleur, c'est la sécurité, c'est l'éducation, les crèches, enfin tout le quotidien sur lequel on s'engage résolument parce que on porte un certain nombre de valeurs et qu'aujourd'hui, ce vivre ensemble nécessite ces valeurs-là. Je peux donner comme exemple les places en crèche. Aujourd'hui, on va développer des places en crèche parce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour les habitants d'avoir ces places-là, mais aussi dans les écoles où on va travailler, où on n'a pas augmenté le prix de la cantine aussi fortement qu'on aurait pu en fonction de l'offre de notre prestataire. Sur, sur les EHPAD, tout ce travail avec des prix de journée, il faut l'optimiser. Les exemples seraient tellement nombreux qu'aujourd'hui, on va maintenir ça et c'est peut-être pour ça que nous avons des contraintes financières dans notre budget.
Diriez-vous que la plus grande difficulté de ce mi-mandat a été le Covid?
Les conséquences du Covid sont fortement impactantes. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour notre société en général. Je pense que le Covid a laissé des traces dans la démobilisation et la fragilité psychologique des habitants. Mais je le vois chez mes agents, je le vois, on est un peu tous usés. Voilà, enfin.
Ça se voit aussi dans la relation avec les associations et le bénévolat en général?
Oui, entre autres, ça fait partie. Et la réforme des retraites fait qu'aujourd'hui, en plus du Covid, en plus de la démobilisation, j'ai l'impression qu'au sein de la population, ça crée une rupture qui fait qu'un dynamisme sociétal est aujourd'hui fragilisé. Mais en revanche, sur le territoire de la CABA, je reconnais que là, pour le coup, il y a quand même des lignes de force qu'il faut accompagner parce que aujourd'hui, c'est source de dynamisme et il ne faut pas les gâcher.
Aurillac s'en sort bien, quasiment une situation de plein emploi.
Ah oui, tout à fait. Alors là, plein emploi et même des difficultés de recrutement, d'où l'importance d'avoir et de réduire tout ce qui est des freins à l'embauche. Donc,
il faut rendre la ville attractive.
Tout à fait. Et il faut rendre la ville attractive, elle l'est déjà un peu, et il faut continuer.
Qu'en est-il du projet Europan? Est-il à l'arrêt?
Alors non, il n'est pas à l'arrêt. Non, simplement. Donc il y a deux parties dans Europan. Il y a la partie gravier-gerbère, en quelque sorte, et qui doit faire l'objet d'aménagement et surtout de traiter les problèmes aujourd'hui centraux du dérèglement climatique que sont les îlots de chaleur et la végétalisation des zones urbaines. Donc sur cette partie-là, sur la partie gravier place Gerbert, la place de la préfecture en quelque sorte, la place de la préfecture, enfin côté préfecture et côté vestige finalement Saint-Géraud, ce site-là devrait être réhabilité là dans les années dans la deuxième partie de mandat sous réserve d'obtenir les financements nécessaires. Ensuite, la partie Europan nord cours d'Angoulême. Là, aujourd'hui, la dépollution et la déconstruction va débuter et l'objectif, c'est qu'elle soit finie au 31 décembre 2024. Donc, l'intention de mon équipe municipale, c'est de poursuivre le projet Europan sur le cours d'Angoulême, avec la création d'un office de tourisme et à minima un parking silo pour récupérer les places qui seront déplacées du gravier. Donc ces projets-là, moi ce que j'aimerais, c'est que ça se finira pas sur le mandat, mais que ce soit initié fortement dans le mandat.
Les chroniques terriennes, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Pierre Matonnier, maire d'Aurillac, Pascal Monres, directrice de l'école de la Deuxième Chance, et Anna Praderol d'avoir participé à cette émission. Je remercie également tous ceux qui ont pris le temps de l'écouter. Si un sujet vous passionne, que vous souhaitez vous exprimer à la radio, n'hésitez pas à me contacter au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chronique Terrienne. Il vous est possible de retrouver vos chroniques terriennes sur le replay de Radio Pays d'Aurillac, radiopaysdaurillac.com, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Au revoir à toutes, au revoir à tous.
La ville de demain sera cet ensemble où chacun sera déterminé dans son travail et ses loisirs.